Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, en ce jour où tu acceptes de donner ta vie pour nous, pour le monde entier, donne-nous d'entrer dans ce mystère de ta passion avec un cœur large, compatissant, repentant. Donne-nous de t'accompagner pas à pas dans ce chemin de la croix pour entrer avec toi dans la joie de la résurrection. Nous voulons nous confier à la prière de la Vierge Marie, ta mère qui s'est tenue debout au pied de la croix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Donc, nous entrons dans le grand jour de la Pâque de notre Seigneur. Et je vous propose, par l'intercession de Marie, de pouvoir vivre ce jour comme un temps de contemplation du Christ qui pour nous va offrir sa vie, comme nous y invite Saint Jean, lorsqu'il nous dit, en citant le prophète Zacharie, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Par l'action de l'Esprit Saint, nous sommes invités à lever nos yeux vers le crucifié, dans un regard à la fois de repentance et de compassion, pour rendre à Jésus, qui offre sa vie pour nous, amour pour amour, pour étancher sa soif infinie d'être entendu, d'être accueilli, de pouvoir déverser ses fleuves d'eau vive dans nos cœurs, en allant nous-mêmes boire à la source de son cœur et en faisant ainsi miséricorde au miséricordieux. Et en même temps, de répondre aussi à la soif de Jésus, que le Père soit connu dans le monde entier, que son amour soit accueilli dans le monde entier. Et nous aussi, bien de représenter au pied de la croix avec Jean et Marie le monde entier, d'offrir pour le monde entier tout ce que Jésus vit aujourd'hui et de nous offrir avec lui. Alors, pour vivre cette contemplation, je vous propose de méditer sur le mystère du Fils, du Père et de l'Esprit en ce temps de la Passion. Et tout d'abord, le mystère de Jésus miséricordieux. Toute la vie de Jésus sur la terre n'a été qu'une révélation de la miséricorde infinie du Père pour les hommes, à travers tous ses gestes de guérison, de compassion, de libération, de réintégration, qu'il a posé à travers tous ses enseignements, également tous les gestes de pardon qu'il a posés en faveur des pécheurs, remettant les péchés au scandale des pharisiens et des docteurs de la loi, par ses enseignements, tous ses enseignements sur la miséricorde qui s'inscrivent tant dans la tradition, la meilleure tradition d'Israël. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Toutes ces paraboles de la miséricorde qu'il a inventées pour faire comprendre le sens profond du salut, de la révélation de l'action de Dieu dans le monde. Et puis, donc, finalement, ce désir qu'il habitait depuis le commencement, d'aller jusqu'au bout de cette révélation et de ce don de la miséricorde en offrant sa propre vie pour notre salut. Hein, cette croix du désir qui habitait son cœur, de pouvoir donner sa vie pour que nous recevions la vie. Mais tout cela n'était encore que des préparations, des prolégomènes à cette ultime révélation de la miséricorde que va être le Triduum Pascal et en particulier l'heure de la croix, qui est aussi l'heure de la miséricorde, qui est aussi l'heure de Marie. Alors, pour contempler cette heure de la croix, nous avons une voie royale qui sont les évangiles, où la place de la passion est tout à fait impressionnante. J'allais dire que si on compare l'importance donnée aux événements de la passion par rapport à ceux donnés aux événements de la résurrection, elle est considérable. Comme si c'était, bien sûr que la résurrection est le cœur de notre foi et la joyeuse annonce du salut, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Néanmoins, le chemin qui nous y conduit, c'est celui que Jésus prend aujourd'hui, qui est le chemin du salut, le chemin de la rédemption, le chemin de la miséricorde. Et c'est là que se déploie au maximum l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pourquoi il est si important d'y entrer avec confiance, aidé par Marie, par les saintes femmes, par Marie-Madeleine, par saint Jean lui-même, aidé aussi par nos frères et sœurs de la terre. Face au mystère de la croix, nous sommes toujours très petits, très faibles, très fragiles. On a besoin de se soutenir les uns les autres, comme Jean et Marie se sont soutenus au pied de la croix. On ne peut pas l'affronter tout seul, j'allais dire que Jésus lui-même a eu besoin de Marie et de Jean et de Marie-Madeleine pour aller jusqu'au bout de son sacrifice. Et a fortiori, nous qui sommes des pauvres pécheurs. Mais en tout cas, nous pouvons y engager avec confiance parce que c'est Jésus qui nous y précède et qui fait ce chemin pour nous. Et que pour nous, il s'agit surtout, j'allais dire, de le laisser faire et de l'accompagner, de le suivre, d'être de ses amis qui suivent l'agneau partout où il va. Voyez, dans le drame de la passion, il y a comme un tri qui se fait. Il y avait beaucoup de gens qui apparemment étaient attachés à Jésus, les foules qui l'écoutaient avec enthousiasme, qui l'ont acclamé à son entrée à Jérusalem. Ces juifs lettrés qui, plus ou moins en catimini, se mettaient à l'école de Jésus, comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathie. Et finalement, ses disciples eux-mêmes, et au milieu d'eux, le groupe des 12, qui suivaient Jésus, qui étaient toujours avec lui. Et voilà que dans la passion, il y a comme un tri qui se fait. Et il ne reste finalement que les amis de Jésus, ceux qui lui sont attachés par les liens du cœur, ceux qui ne se voient pas à l'extérieur, mais que Dieu voit, Dieu voit par-delà les apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. On peut avoir des églises qui sont remplies. On peut avoir de grands rassemblements. Dieu, lui, cherche des cœurs qui brûlent. Des cœurs semblables aux siens. Des cœurs qui sont assoiffés d'amour, remplis de désir. Des cœurs qui sachent compatir, qui sachent comprendre là où les raisonnements défaillent, par justement les liens du cœur, par l'attention aimante, l'intuition du cœur, l'amour. Et dans cette église de l'amour qui va accompagner Jésus, il y a un peu, j'allais dire, toutes les facettes de l'amour. Il y a la mère qui est celle qui, j'allais dire, est en tête de ligne, Marie, qui va compatir de façon particulière à la passion de Jésus. Mais il y a aussi, j'allais dire, la figure de l'épouse ou de l'amante qui est Marie-Madeleine. Bon, elle aussi, le cœur est transpercé d'une certaine façon à la croix, de voir son bien-aimé dans les affres de l'agonie. Et puis, il y a l'ami, Jean, le disciple bien-aimé. Ces différentes facettes de l'amour. Mais on peut dire que la figure féminine domine quand même. C'est ce qui frappe dans l'évangile de Jean. C'est combien les femmes occupent une place importante tout au long de l'évangile. Et en particulier en commençant par Cana. Puis après, il y a la Samaritaine, et puis il y a la femme adultère, et puis il y a Marthe et Marie, et puis il y a finalement Marie de Béthanie qui pose ce geste au début de la Semaine Sainte, et puis au pied de la croix, les cinq femmes, et puis le jour de la résurrection, Marie-Madeleine. Comme si Jean voulait souligner qu'au fond, toute la vie du Christ, et je dirais particulièrement toute la passion du Christ, ce n'est qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et nous, entre Jésus et son Église. Une histoire d'amour qui donne sens à toutes nos histoires, à toute l'histoire du monde, depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et dont la clé, c'est le cantique des cantiques, qui chante l'amour nuptial de Dieu pour son peuple, ce cantique des cantiques qui trouve son accomplissement dans le récit de Cana et celui de la croix et de la résurrection. Et donc, c'est avec cette confiance que nous pouvons entrer dans cette contemplation pour, par-delà le temps et l'espace, étancher la soif de Jésus sur la croix. Je le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais mystérieusement, Jésus nous voyait sur la croix. Il voyait les hommes de tous les temps pour qui il offrait sa vie. Mais il nous voyait, nous en particulier. Et lorsqu'il a poussé son grand cri, j'ai soif, eh bien, il a attendu une réponse de notre part. Et cette réponse, nous voulons la lui donner aujourd'hui, d'une façon particulière. Et nous pouvons aujourd'hui, mystérieusement, donner à boire à Jésus sur la croix, en recevant de lui ce sang et cette eau qui laisse jaillir pour notre salut, celui du monde entier. Donc, en contemplant aussi, méditant sa parole, prenons du temps pour être avec lui. Alors, pour cela, je vous propose deux pistes pour contempler Jésus, qui sont tout d'abord l'évangile de Luc et ensuite celui de Jean. Pourquoi l'évangile de Luc ? Parce que c'est l'évangile de la miséricorde, nous sommes dans l'année de la miséricorde. Et pour voir combien cet évangile nous fait percevoir combien de bout en bout la passion de Jésus est un acte de miséricorde pour nous, les pécheurs. Vous pourrez le parcourir à partir de l'agonie de Jésus, au chapitre 22, verset 39. Je voudrais simplement citer quelques passages. Donc, tout d'abord, l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers, avec Judas qui marche à la tête d'une foule qui l'a conduit vers Jésus et qui va le livrer en lui donnant un baiser. C'est fou comment Judas retourne tous les symboles, celui de l'amitié, celui, on va dire même liturgique, de la communion, qui est un fruit de l'Eucharistie, hein, ce baiser de paix que nous donnons lors de la messe, qui exprime cette communion qui est un fruit et une condition en même temps de la participation à la communion eucharistique. Lui qui a été établi comme apôtre, il a cette mission particulière par le don de sa vie dans la célébration de l'Eucharistie, mais aussi dans la charge pastorale de veiller à cette communion qui commence déjà par la communion avec le Christ et puis la communion avec les autres apôtres. Et c'est par un baiser, signe de communion, qu'il en fait, il inverse la relation en livrant Jésus. Et face à cette perversion, il est possible que j'allais dire, dans un contexte chrétien, les pires péchés sont ceux commis par les chrétiens, et j'allais dire chez les chrétiens par les prêtres et les consacrés. Parce qu'il n'y a rien de plus pervers que ce qui est le retournement de la grâce maximale qui est donnée par Dieu aux hommes dans l'Église, et notamment dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre temps, une civilisation post-chrétienne qui retourne contre le Christ, le don même que le Christ lui a fait de la révélation de son amour, sans vouloir juger qui que ce soit, bien sûr. Mais justement, précisément, ce qui est très beau, c'est que Jésus ne juge pas Judas. Il ne le juge pas. Mais il lui fait quand même un reproche. Douloureux. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et dans d'autres passages, Jésus dit à Judas, ami, fais ta besogne. Jusqu'au bout, il considère Judas comme son ami. Et quelque part, il lui laisse la permission de le prendre. Ce qui apparaît encore plus clairement dans l'évangile de Jean. Quand Jésus est à Gethsémani, je crois qu'il se présente devant ceux qui viennent le prendre et qu'il donne son identité. C'est moi, je suis ego eimi. C'est un titre divin. Les puissances des ténèbres qui sont représentés par ces hommes, et notamment par Judas qui vient de le saisir, eh bien, sont déstabilisés et renversés. Et c'est Jésus qui prend l'initiative de se donner, et jusqu'au bout, qui leur donne permission de le saisir. Sans cette permission, ils ne pourraient rien faire contre lui. Sa miséricorde va jusque-là. D'accepter de se laisser saisir, de se laisser trahir par Judas, non pas parce qu'il encourage Judas à le faire, mais parce qu'il veut aller jusqu'au bout de ce salut du monde. Dans toutes ses facettes, y compris les plus redoutables. Et donc, il ne condamne pas Judas. Simplement, il lui fait ce reproche douloureux, qui est une façon aussi d'être miséricordieux, parmi les œuvres de miséricorde. Il y a aussi le fait d'avertir les pécheurs. Laisser l'autre se perdre, ça n'est pas une miséricorde. Voyez, on confond la tolérance avec la miséricorde. Mais la tolérance est une bonne chose. Mais la tolérance n'est pas l'indifférence par rapport au salut éternel de l'autre. Avertir les pécheurs, c'est une œuvre de miséricorde, même s'il faut le faire dans la miséricorde, pour qu'elle porte du fruit, autrement elle durcit plutôt qu'elle le convertit. Néanmoins, c'est une véritable œuvre de miséricorde que de faire percevoir à l'autre qu'il est en train de s'égarer, qu'il prend un chemin de mort. Et puis, on voit aussi cette miséricorde du Christ qui, au moment où Pierre blesse Malchus, le serviteur du grand prêtre, de son épée, Jésus qui va guérir l'oreille de celui qui pourtant vient pour le prendre. Ce geste de miséricorde posé au cœur même de ce drame de la passion vis-à-vis de ses bourreaux. Et vis-à-vis de ses disciples aussi, hein, où Jésus prend leur défense face à cette troupe. Hein, si c'est moi que vous êtes venu prendre, ben laissez-les partir ceux-là. Hein, il veut vraiment porter sur lui tout le fardeau. Il est vraiment le berger, hein, qui se laisse dévorer par les loups pour remettre à son troupeau d'échapper à la mort. Et puis, elle se poursuit, cette miséricorde, lorsque Pierre le renie au bord du feu. Et Pierre, vous savez, c'est l'image de l'Église tout entière. C'est la nôtre. Le bord du feu, ça peut être, voyez, le bord du feu de nos conversations familiales ou professionnelles ou politiques ou même ecclésiales, ou bien souvent par lâcheté, par peur, par faiblesse, nous pouvons être amenés à renier simplement ce qui est le cœur de notre foi, notre amour du Christ. À ne plus mettre Jésus à la première place, mais mettre notre réputation, notre sécurité, nos relations avant celle, avant la place de Jésus. Et voilà que Jésus, dans sa miséricorde, au moment même où Pierre est en train de le renier, Jésus fixe son regard sur lui. Un regard de miséricorde comme celui qu'il a posé sur Judas, un regard qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui veut faire percevoir à l'autre qu'il est en train de s'enfuir, de se perdre. Et là, Pierre se souvient de la prophétie que Jésus lui avait faite concernant son triple reniement. Et ce regard du Sauveur va provoquer sa conversion. Il va sortir en pleurant. C'est une grâce de pouvoir pleurer. Le pape le dit souvent. Pleurer notre péché. Pleurer notre incapacité à aimer. Incapacité à tenir nos résolutions. Incapacité à être fidèle à Jésus, à nos amis, à nos frères. Et puis cette miséricorde, elle se manifeste encore lorsque Jésus est outragé par ceux qui le gardent. On lui voit le visage et l'interroge en disant: t'es le prophète, qu'est-ce qui t'a frappé? Et Jésus ne dit rien. C'est le père Jean-Michel Garrig médite sur ce passage, la lumière de présentation de Fra Angelico. On voit le Christ les yeux bandés et les yeux fermés, les gens qui le giflent, qui le frappent. Et lui ne dit rien, comme s'il ne voulait pas voir le mal. Lui qui est innocent du mal, qui ne comprend pas le mal, pour qui le mal est un mystère incompréhensible, mystère d'iniquité. Il se refuse à juger, à condamner. Il pourrait, en vertu de sa science humano-divine, bien évidemment, ou seulement dire celui qui l'a frappé, mais le juger, le condamner, l'anéantir, et se livre mystérieusement à cette iniquité en se refusant à juger. Et c'est aussi question pour nous, et dans notre attitude face au monde. Comment est-ce que nous nous situons face à ceux qui nous calomnient, ceux qui nous accusent injustement? La semaine dernière, les évêques de France étaient réunis dans l'Assemblée plénière à l'aube et ils ont été littéralement assaillis par les journalistes à propos de ces questions de pédophilie. Et c'est comme si l'Église était mise en procès, un peu comme le Christ. À tort ou à raison, évidemment, il ne s'agit pas ici d'en d'entrer dans tous les détails, tout ce qui peut se passer ici ou là, mais par-delà les circonstances, il y avait, on voyait bien qu'il y avait autre chose, une volonté d'accuser, de condamner, comme le Christ. L'Église qui ne veut que servir l'homme, qui veut annoncer la miséricorde aux hommes, est mise en pensée. Et le cardinal Barbarin en particulier, qui est, vous savez, peut-être, vous ne savez pas, mais qui est un des grands promoteurs en France de la miséricorde de Dieu, en cette année de la miséricorde, est mise en pensée. Et j'allais dire, il y a peut-être aussi un dessein de miséricorde de Dieu là-dedans, aussi mystérieusement, aussi mystérieux que cela puisse être. Miséricorde de Dieu va jusqu'à se laisser accuser par les hommes. Il y a un film que vous connaissez peut-être qui raconte la vie d'André Rublev, qui est un peintre, un moine russe du XIVe siècle ou du XVe siècle, je ne sais plus, qui vit une époque très troublée de l'histoire de la Russie, des invasions tartares, un pays qui est ravagé par les guerres, par la désolation, et lui traverse ce monde qui, où le mal semble dominer. Il est un moine, mais il est aussi un peintre, et on lui commande une icône qui représente le jugement dernier. Et il dit, une réponse extraordinaire, il dit, mais qui suis-je moi pour représenter le jugement dernier? Comment voulez-vous que je puisse peindre le jugement dernier? Il refuse de faire ce tableau. Il refuse de se présenter comme le juge de ses frères, de porter un regard de jugement sur ce monde, sur son époque, qu'il traverse, où il est affecté par tout ce mal qui semble dominer. Mais il se refuse catégoriquement à dire le mal, à voir le mal, à condamner le mal. Il va finalement peindre l'icône de la Trinité. Comme le fruit de sa contemplation au cœur de ses ténèbres, il va faire jaillir la lumière de l'espérance, de la foi, de l'amour. Et finalement, ce qu'on a retenu de cette époque, ce n'est pas tout le mal qui s'y est fait, c'est cette icône qui reste encore pour nous aujourd'hui un trésor, mais qui est né dans ce contexte troublé, voyez, de la contemplation d'un moine qui a refusé de se mettre, de se présenter comme l'accusateur de ses frères, mais qui au contraire a voulu être le porteur de l'espérance et de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est vraiment d'actualité pour nous aujourd'hui, voyez, pour l'Église de France, pour l'Église du monde entier, dans ce monde troublé, d'être dans l'attitude du Christ, accusé injustement, mais qui se refuse à condamner qui que ce soit, et même à voir le mal. Et puis, dans ce procès de Jésus, donc, il y a justement ce silence du Christ face à ses accusateurs. Lui qui a si souvent répondu à ses détracteurs avec des répliques qu'il éprouvait sur place, en quelque sorte, quand elles étaient remplies de sagesse et de force, il se refuse désormais à prendre la parole, d'abord parce que c'est inutile, les gens sont tellement remontés contre lui qu'il n'y a plus rien à dire. Il est comme l'agneau muet devant celui qui le tombe, l'agneau qu'on emmène à l'abattoir, qui ne se défend pas. Vous savez que l'agneau, c'est le seul animal qui se laisse égorger sans se débattre, qui s'endort paisiblement, vous allez dire, dans les bras de celui qui l'égorge. C'est pourquoi c'est l'animal victimal par excellence. C'est aussi l'animal qui a servi à désigner le Christ. Les prophéties d'Isaïe notamment. Et donc Jésus se laisse conduire à l'abattoir et il ne juge pas, il ne condamne pas tous ceux qui se déchaînent contre lui et qui le mettent en procès, comme aujourd'hui encore, nous savons ce procès du Christ continue, ne cesse de continuer, et en particulier dans notre pays. Je veux dire, ce drame de la passion, il est actuel, il s'est produit il y a 2000 ans, mais il continue aujourd'hui. Encore plus que jamais, le Christ est mis en procès, lui qui est en train de sauver le monde entier, il est accusé par le monde entier d'une certaine façon. C'est un mystère quand même. aussi bien du côté musulman extrémiste que du côté post-chrétien, la ligue extrémiste, et peut-être aussi même par nous-mêmes, les chrétiens, peut-être nous-mêmes, nous mettons le Christ en procès dès que quelque chose nous dépasse dans notre histoire, dans l'histoire des autres. Mais finalement, pourquoi tu n'as rien fait? Fais le prophète, montre-nous qui tu es, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et finalement, nous tous, quelque part, nous pouvons nous retrouver dans ces écrits de cette foule qui dit « Crucifie-le, crucifie-le à Pilate ». Dans la liturgie des rameaux, normalement, c'est toute l'assemblée qui dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Pour nous rappeler combien nous avons une part dans la passion de Jésus. Les chrétiens ont la meilleure part, si je peux dire, dans la passion du Christ. C'est ce que nous dit l'enseignement de l'Église. Depuis le Concile de Trente, permet de vous lire un passage du catéchisme de l'Église catholique et la reprise du catéchisme du Concile de Trente. Lire au numéro 598. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Il cite le catéchisme du Concile de Trente. Nous devons regarder comme coupable cette horrible faute de mettre Jésus en croix, de crucifier à nouveau Jésus, pour parler comme l'Épître aux Hébreux, ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Ça a été dit au XVIe siècle. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître, et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et donc Jésus, dans sa miséricorde, se refuse à juger qui que ce soit. Non seulement ça, mais il console ceux qui sont autour de lui, comme les saintes femmes, par exemple, qui se frappe la poitrine et se lamente sur lui. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Il a ce souci des autres, encore plus que de lui-même. Il sait que, après sa passion, les Juifs seront tentés de se chercher d'autres messies, de faux messies, et que cela les conduira à entrer en guerre avec les Romains. Et finalement, à tout perdre, Jérusalem sera détruite, le temple sera détruit. Et donc, quelque part, le bois vert que Jésus annonce aussi les souffrances du bois sec, qui, au fond, cette humanité pécheresse représentée par le peuple juif. Et puis, sur la croix, Jésus crucifié. Imaginez un petit peu ce que ça peut représenter de se faire crucifier après avoir été flagellé. Et qui, alors qu'il est crucifié, va encore faire une prière pour les pécheurs. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de penser à lui-même, il pense à nous tous. Et puis, c'est encore ce passage où, alors qu'il est insulté par tous ceux qui sont au pied de la croix, qui reprennent les tentations du diable dans le désert, les tentations par rapport à sa vie. Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même. Tentation par rapport à la royauté. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et puis, finalement une tentation par rapport au messianisme. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Et Jésus ne répond pas à toutes ces accusations. Mais par contre, lorsque le bon larron dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, là Jésus lui dit tout de suite, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus miséricordieux veut vraiment accueillir avec lui, partager avec lui dans son royaume, j'allais dire l'éternité bienheureuse, avec cet homme qui peut-être a tué. Un instant de repentir peut suffire à justifier toute une vie. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à partager notre éternité avec tous, avec peut-être les plus grands bandits, peut-être les terroristes qui viennent de mourir? Est-ce que nous souhaitons vraiment pouvoir partager l'éternité avec eux, avec tous, y compris avec nos ennemis de la terre, ceux qui peut-être nous ont transversés, passant d'une autre? Est-ce que nous avons ce désir qu'ils puissent, à l'image du bon larron, trouver le chemin du ciel? Et puis finalement, cette ultime parole de Jésus, qui se remet dans les mains du Père, lui qui n'a pas fait l'expérience de la miséricorde des hommes dans sa passion, il s'en remet à la miséricorde du Père dans sa mort. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Comme à l'agonie, quand les hommes vous lâchent, quand la vie même vous lâche, finalement, le seul qui ne peut pas vous lâcher, c'est Dieu, dans son infinie miséricorde. Et c'est à cette miséricorde de Dieu que Jésus se confie ultimement. C'est une miséricorde qui, de fait, va le justifier aux yeux des hommes, le rendre témoignage dès sa mort, faisant jaillir de son côté le sang et l'eau, et dans sa résurrection, et finalement à la fin des temps, dans sa venue dans la croix, et le jugement dernier. Et donc, Jésus, tout au long de sa passion, dans l'évangile de Luc, se refuse à condamner qui que ce soit, à juger qui que ce soit. Et plutôt, il intercède pour le monde, et maintenant lui-même, il se remet à la miséricorde du Père. Alors, un autre évangile que l'on peut méditer dans la passion que nous allons lire cet après-midi, c'est celui de Jean, qui est aussi l'évangile de la miséricorde, d'une certaine façon. En fait, il faut lire les deux évangiles ensemble. Quand on voit la parabole de l'enfant prodigue, elle nous raconte de façon extraordinaire comment, au fond, Dieu n'a qu'un seul souci, qui est de ramener à lui son enfant égaré. C'est-à-dire chacun d'entre nous et l'humanité tout entière. Mais lorsque, dans la parabole, le Père serre son fils dans ses bras et le pose sur son cœur pour le guérir de sa honte, de sa confusion, de ses blessures, de son péché, on n'imagine pas ce que cela a pu coûter au Père. Et il faut voir l'évangile de Jean pour comprendre le prix de la miséricorde, notamment en se transperçant du côté de Jésus. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean, on peut dire, est aussi l'évangile de la miséricorde, mais peut-être encore plus que celui de Luc. Parce que il va juste qu'au bout de la révélation de ce qui se passe dans le cœur miséricordieux du Christ, qui lui-même révèle la miséricorde du Père, C'est d'ailleurs dans le message de Saint Faustine, ce soit l'image de la miséricorde, le dimanche de la miséricorde, l'heure de la miséricorde, et toute la dévotion à la miséricorde, elle est enracinée dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, dans cet évangile, je dirais que cette miséricorde de Christ, elle se manifeste aussi à tout instant, on l'a vu déjà dans le Jeudi Saint, l'attitude vis-à-vis de Judas, mais aussi vis-à-vis de Jean, d'une certaine façon, parce que c'est par miséricorde que Jean est rendu capable d'accueillir l'amour du Christ et ainsi de lui rendre amour pour amour. Mais elle se manifeste aussi dans l'offrande que Jésus fait de lui-même pour ses apôtres, à qui il a lavé les pieds, lavé les pieds de Pierre, lavé les pieds de Judas, lavé les pieds de tous ses apôtres, alors qu'il sait que tous vont l'abandonner, que Judas va le trahir. Donc jusqu'au bout, il se donne, il aime, il sert, il se livre. Et dans le jardin des oliviers, de nouveau, cette miséricorde du Christ, elle va se manifester dans l'initiative qu'il prend de sa passion, à tout instant. En fait, chez Saint Jean, c'est vraiment Jésus qui est le grand protagoniste de la passion. Ma vie, nul ne l'apprend, mais c'est moi qui la donne. C'est très mystérieux. Déjà, c'est lui qui donne en quelque sorte la permission à Judas de le livrer. Ce que tu vas faire, fais-le vite. C'est lui qui donne aux gardes le pouvoir de mettre la main sur lui, alors que par eux-mêmes, ils en sont radicalement incapables. Il peut vraiment boire la coupe que le Père lui présente pour nous tous, la coupe d'amertume, la coupe de souffrance. Je ne reviens pas sur tout ce qui concerne les événements en relation avec le maniement de Pierre. Et il y a des passages qui sont propres à l'évangile de Jean. Il y a dans cette miséricorde du cœur de Christ à la croix, il y a ce souci qu'il a de Marie et de Jean, qui sont ses plus proches. Au lieu de penser à lui-même, eh bien, il donne Marie à Jean et Jean à Marie. Donc, il confie à sa mère, qui est déjà veuve, qui perd son unique, qui a le cœur transpercé par le glaive de douleur, qui est dans la nuit totale de la foi. Il lui confie son frère et son ami, Jean, comme disciple, pour la consoler, pour être en quelque sorte sa présence au milieu, à son côté, au côté de Marie, quand lui-même ne sera plus là. Et de fait, Jean jouera son rôle de consolateur vis-à-vis de Marie. Et la miséricorde de Dieu va jusqu'à lui proposer aux pécheurs que nous sommes de faire miséricorde à la mère de miséricorde, à Marie. Et puis, de même, il confie Jean à Marie parce que dans sa miséricorde, il sait que pour tenir bon face à l'épreuve de la croix, nous avons besoin de Marie, la mère de miséricorde. Donc il y a ce geste de miséricorde de Marie, de Jésus vis-à-vis de Jean et de nous tous et de Marie. Il y a aussi ce cri, encore une fois, de Jésus sur la croix, j'ai soif. Le miséricordieux qui implore miséricorde de la part des pécheurs. C'est le comble de sa miséricorde. Il mendie notre amour, mendie notre soif. Il mendie notre retour à tant de beauté et d'amour, et lui-même, dans sa miséricorde, va nous donner le moyen de lui rendre amour pour amour, qui est de laisser jaillir le sang et l'eau. Car par nous-mêmes, nous sommes incapables de correspondre à son amour, nous donnons du vinaigre, alors il va donner lui le vin nouveau de l'Alliance nouvelle, par lequel nous pourrons entrer en communion avec lui, et par lui avec le Père, et les uns avec les autres, à travers le sang et l'eau. Nous avons déjà parlé de ce symbolisme du sang et de l'eau. Jésus qui se laisse guider de tout son sang, ce sang qui est le sang de l'agneau, ce sang que nous buvons dans l'Eucharistie, et ce sang qui est répandu pour le salut du monde entier, qui apaise la colère de Dieu que nous avons méritée par nos péchés, et qui nous obtient le don de l'Esprit nouveau, qui jaillit du côté transpercé pour faire naître l'humanité nouvelle. L'Esprit qui nous est communiqué dans les sacrements de l'Église, le sang, l'Eucharistie, l'eau, le baptême, tous les sacrements qui font l'Église. Et donc, cette miséricorde totale, je dirais, de Dieu qui l'amène où nous le transperçons du plus profond de son cœur, les jaillirs. Sa miséricorde sous le signe du sacrement et de l'Église elle-même. Qui est elle-même comme le sacrement de la miséricorde de Dieu. Miséricordie pour devenir miséricordieuse. Et ultimement, j'allais dire, cette miséricorde de Dieu, ça va être de nous transpercer le cœur. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. À travers le don de l'Esprit Saint. Le fruit de ce don, le don des dons, c'est d'avoir le cœur transpercé, d'avoir transpercé le cœur du Fils de Dieu. Ce regard de repentir et de compassion que nous pouvons lever sous l'action de l'Esprit, sur le Christ, en comprenant que, bien sûr, c'est par les Juifs et les Romains, mais c'est aussi par nous, par moi, que Jésus a été transpercé. C'est vraiment la grâce des grâces. Ce qu'on appelle la compunction dans la tradition de l'Église. C'est ce transpercement du cœur, cette grâce de repentance, du cœur brisé, cette grâce, j'allais dire, des larmes face à Jésus, mais qui n'est pas là pour nous accabler, mais au contraire, pour nous configurer à Jésus lui-même, miséricorde. Pour nous, les pécheurs, nous y entrons par la porte du repentir, mais aussi du pardon, parce que ce même esprit qui vient nous révéler notre péché, c'est lui aussi qui nous en guérit, parce qu'il est la miséricorde du Père et du Fils en personne. Notamment dans les sacrements de l'Église. Donc vivre cette grâce de la miséricorde à l'école de Saint-Jean pour lever les yeux vers celui que nous avons transpercé. Donc, Saint-Jean, à la suite de Luc, donnait comme porte pour contempler le mystère du Christ, et ce sera la deuxième partie maintenant, ce sera plus courte, à travers lui contempler le mystère du Père, les miséricordes. Et c'est, j'allais dire, dans la passion du Christ, se dévoile l'amour du Père, un amour incompréhensible pour nous et pour le monde entier. Et cet amour qui nous est donné à contempler par le message de Sainte Faustine en particulier, puis de Thérèse de Lisieux, l'amour miséricordieux, et qui se révèle au maximum justement à l'heure où apparemment le Père se cache. C'est le paradoxe de la miséricorde. C'est l'heure de la nuit, l'heure de l'agonie et de la croix, qui est l'heure de la miséricorde, l'heure de la foi. Marie, au pied de la croix, elle est dans la nuit totale. Elle ne comprend plus rien. Apparemment, Dieu semble détruire ce qu'il avait construit jusque-là. Dieu semble se contredire par rapport à tout ce qui lui a été dit le jour de l'Annonciation et à Bethléem par les bergers. Et pourtant, Marie ne doute pas de la bonté de Dieu. Elle ne doute pas de son dessein de miséricorde sur elle et sur le monde entier. Mais son cœur est transpercé par le cœur de douleur. Et elle compatible avec Jésus, à cette heure de la miséricorde, à cette heure de la croix, à cette heure du salut du monde, où apparemment Dieu se cache, alors qu'en fait c'est là qu'il fait miséricorde au monde entier. Et c'est vraiment un mystère, ça, de notre foi chrétienne. Je crois que Thérèse de Lisieux en a perçu quelque chose dans sa vie, elle qui s'est faite le témoin de l'amour miséricordieux pour les hommes, elle a éprouvé cette nuit de la foi, dans les 18 derniers mois de sa vie, où Dieu semblait se dérober. L'existence du ciel, l'existence de l'amour de Dieu n'était plus une évidence pour elle. Mais elle n'a jamais douté. Elle est restée dans la foi, mais dans une obscurité totale. Et je dirais que c'est aussi l'expérience de Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous savez, je l'ai déjà dit, a découvert le message de la miséricorde quand il était séminariste clandestin à Cracovie. Je crois que c'était à partir de 1942. Donc le jour, il travaillait aux usines Solvay, à 1 km du couvent de Sainte-Faustine, et la nuit, il était séminariste. Et entre les deux, il allait prier sur la tombe de Faustine dans son temps du travail. C'était une époque absolument dramatique pour la Pologne. 70 km seulement séparent Cracovie d'Auschwitz. Et 6 millions de Polonais sont morts pendant la guerre. La volonté d'Hitler était de détruire la Pologne, culturellement, de détruire l'identité polonaise. Et 3 millions de catholiques, 3 millions de juifs sont morts. Et Jean-Paul II aurait pu sombrer dans la désespérance, comme je pense certains jeunes de sa génération. Il aurait pu devenir violent. Et il a eu la grâce de rencontrer un mystique, Ian Tiranowski, qui l'a introduit à la spiritualité de Jean de la Croix et du Carmel, qui justement nous apprend que l'heure de la nuit, c'est paradoxalement l'heure où Dieu agit le plus, tout en se cachant. Thérèse a envoyé cette image du chirurgien qui endort ses malades avant de les opérer. C'est ça. La manière de parler de la nuit de la foi, c'est un langage poétique, mais il faut se méfier de Thérèse quand elle prend des images enfantines comme ça. On n'imagine pas ce que ça recouvre derrière de réalité. Dans sa vie, elle avait l'art de fleurir toutes choses, y compris les plus douloureuses, les plus pénibles. Et donc, ce mystère, vous voyez, de la nuit, qui est aussi le mystère de notre temps, le mystère de ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye, au Nigeria, en Mali, en Ukraine, dans tant de peuples de la terre à qui sont affrontés des souffrances qu'ils n'ont pas choisies, au Congo, à Kinshasa, au Soudan. Il paraît que c'est terrible ce qui se passe au Soudan actuellement. Personne n'en parle du Sud-Soudan. Il paraît que c'est épouvantable. C'est un peu du style du genre Rwanda, et personne n'en parle. En Centrafrique, en Somalie, dans tant de pays du monde, au Burundi, là encore on n'en parle pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au Burundi, qui est épouvantable, du style du génocide de 94, et ainsi de suite. Là, tous ces peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Tous ces pauvres, pourquoi est-ce que ce sont toujours les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont déjà les plus, qui ont déjà le plus de mal à vivre sur la terre? Pourquoi c'est eux qui sont les premiers à souffrir de tous ces drames, qui sont souvent liés à des histoires de pouvoir, de matières premières, de pétrole, souvent par où les riches de la terre ont leur part, malheureusement. J'ai eu l'occasion d'être en Côte d'Ivoire au moment de la guerre. Vous voyez, à un moment, j'ai trouvé refuge dans une communauté marianiste. Et on était d'un côté de la lagune, et de l'autre côté d'un village, à quelques kilomètres de là où nous étions, de Djoula. Djoula, ce sont les populations du nord de la Côte d'Ivoire et du Sahel.
musulmane, souvent très pauvre, très très pauvre. Et de là où nous étions, nous avons vu les miliciens, les mercenaires entrer dans le camp, dans le village de Dioula, avec des armes lourdes pour massacrer. C'est que mystérieusement Dieu est là. Et Dieu, qui n'a pas voulu tout ce mal, et bien Dieu, mystérieusement, va se servir de ce mal qu'il n'a pas voulu pour un bien plus grand, qui est le salut du monde entier. C'est un mystère. Mais la spiritualité du carême nous aide à le comprendre. Et une autre influence sur Jean-Paul II, ça a été Saint-Louis-Marie qui est un homme fort, la dévotion à Jésus par Marie, qui se résume dans ce verset de Saint-Jean, dès cette heure-là, l'heure de la croix, l'heure de la miséricorde, mais aussi l'heure de Marie, l'heure de son cœur transpercé. Le disciple a pris chez lui. Dans cette heure de la nuit, c'est par Marie que l'on peut garder la foi et l'espérance pour passer de la mort à la vie avec Marie et pour faire passer le monde entier de la mort à la vie. Donc, Jean de la Croix, Clément de Montfort et puis finalement Faustine, qui nous parle de l'heure de la miséricorde. Tout ça converge, mais sur ce mystère de la croix, qui est le grand mystère de la miséricorde. Alors, dans ce mystère se dévoile comme en transparence le mystère du Père, qui reste pour nous un mystère insondable. La miséricorde reste toujours pour nous un mystère insondable. Elle n'est pas dans l'ordre d'un savoir notionnel, voyez. Même si les théologiens en parlent. Mais quand Jésus dit qui me voit voit le Père, il nous révèle quelque chose à l'heure de la croix, de ce qui dévoile du mystère du Père. Il y a un mystère du transpercement du Père dans la passion de Jésus. C'est vrai que le Père, en tant qu'il est Dieu, il est acte pur, comme disent les théologiens, pure actualité, être subsistant. Et donc, il n'y a aucune imperfection en lui qui pourrait correspondre à ce que nous appelons la souffrance ou le mal. Et pourtant, parce qu'il est amour, il y a en lui une mystérieuse passion d'amour pour le monde, une compassion. Dont il est fait car dans la tradition de l'Église, par exemple chez Origène qui dit le Sauveur descendit sur terre par pitié du genre humain. Il a patiemment éprouvé nos passions avant de souffrir sur la croix et de daigner prendre notre chair, car s'il n'avait pas souffert, il ne serait pas venu partager la vie humaine. D'abord, il a souffert, puis il est descendu et s'est manifesté. C'est très impressionnant. Vous voyez, quand Saint-Jean dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il y a comme une compassion du Père pour le monde. Une mystérieuse douleur du Père qui l'a poussé à envoyer son Fils unique. Et dont la passion est la manifestation d'une certaine façon. L'Ancien Testament dit que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Et vous voyez, les rabbins, quand ils voient la rencontre de Moïse avec Dieu dans le désert, quand Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte », Les rabbins disent que c'est au fond, Dieu s'est révélé à Moïse dans un puissant dépit pour signifier qu'il était avec son peuple mystérieusement qui souffrait en Égypte, humilié comme ce puissant dépit. Et donc il y a comme compassion de Dieu qui précède en quelque sorte le mystère de l'incarnation et de la rédemption, qui va en être la manifestation. Quelle est donc cette passion qu'il a soufferte pour nous? La passion de la charité. Donc là, il parle du Verbe, mais après, il va parler du Père, c'est Origène. Et le Père lui-même, Dieu de l'univers, plein d'indulgence, de miséricorde et de pitié, n'est-il pas vrai qu'il souffre en quelque manière? Ou bien ignore-t-il que lorsqu'il s'occupe des affaires humaines, il éprouve une passion humaine, car il a pris celui des manières d'être le Seigneur ton Dieu, comme un homme prend celui son Fils. Dieu prend donc sur lui nos manières d'être, comme le Fils de Dieu prend nos passions. Le Père lui-même n'est pas impassible. Si on le prie, il a pitié, il compatit. Il éprouve une passion de charité. Et voilà cette formule très forte. Par amour de l'homme, l'impassible a souffert le bouleversement de la miséricorde. Excusez-moi. Par amour de l'homme, l'impassible a souffert le bouleversement de sa miséricorde.
C'est-à-dire qu'il y a en Dieu une capacité mystérieuse de se laisser
affecter par notre péché et par nos souffrances, qui est comme exprimé à travers le coup de lance, comme l'a dit un théologien sur la croix. Le Père apparaît comme un Père immolé. Le Christ, à travers le coup de lance, nous révèle que le Père est un Père lui-même comme immolé. Vous voyez, lorsqu'Abraham offre son fils au moment là, les exégètes nous disent que le véritable sacrifice, ce n'est pas celui du fils, c'est celui du père. Il est signifié à travers le bélier. Le bélier est une image paternelle, c'est pas une image filiale, c'est pas un agneau, c'est un bélier. Parce que le père, d'une certaine façon, c'est encore plus douloureux pour lui d'offrir Isaac que pour Isaac de se laisser offrir. Et à travers cela se révèle quelque chose du mystère de la passion, où la passion du Père, qui offre son unique, Dieu t'a en temps aimé le monde, qu'il a donné son unique, son Isaac, hein, le Fils, Jésus, hein, dont Isaac était la préfiguration. Et cette passion du Père, elle est d'une certaine façon encore plus grande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les parents qui sont ici peuvent le comprendre. Hein, des fois, on souffre encore plus de la souffrance de son enfant que lui-même. Lui, il le vit en première personne, vous allez dire, au premier degré. Mais la compassion peut être parfois encore plus grande. Et cela a été très manifesté dans la iconographie occidentale, au Moyen-Âge, par toutes ces représentations du trône de la gloire. On voit le Père qui soutient les bras de son Fils sur la croix, et sur des représentations, notamment en Allemagne, on voit le Père qui pleure. C'est très impressionnant. Et Marie au pied de la croix, elle est comme aussi cette image de la compassion du Père. Vous voyez, elle, dont le cœur est transpercé par le glaive. Donc il y a quelque chose du mystère du Père qui nous est révélé. Et en même temps, cela reste un mystère pour nous, car dans sa toute-puissance, il va transformer tout ce mal qu'il n'a pas voulu, hein, qui est fait à son enfant, il va le transformer en un bien encore plus grand, qui est de faire miséricorde au monde entier. Donc ça nous dépasse complètement. C'est lié à la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que cette, voyez, sur l'image de Jésus miséricordieux, on voit Jésus qui surgit de la nuit. Il y a comme une nuit qui est celle du mal, du péché, mais il y a aussi la nuit du Père. Le Père est pour nous une nuit. Il reste quelque chose qui dépasse notre intelligence, et même dans le ciel, nous le verrons tout entier, mais pas totalement. Nous ne le comprendrons pas. Il restera pour nous un mystère incompréhensible, même si nous le contemplerons face à face. Et ce mystère, c'est un mystère de miséricorde, vous voyez. Et au fond, cette image biblique de la miséricorde comme le sein du Père, vous voyez, ça nous dit quelque chose aussi. Un enfant qui est dans le sein de sa mère, il est dans l'obscurité. Et pourtant, cette obscurité, elle est remplie d'amour. C'est une obscurité protectrice. Et il y a ce cœur de la mère qui bat. Et d'une certaine façon, chacun de nous sommes dans le sein du Père. voyez, par création, d'abord, puis par le baptême. Et nous ne pouvons pas le voir, le Père, mais vous avez presque dit que nous pouvons l'entendre, pour entendre son cœur qui bat.
C'est théologique ce que je suis en train de dire.
Parce qu'il y a un mystère, vous voyez, c'est à propos de la création de Pape Jean-Paul, de parler de la création comme un grand cœur, vous voyez. Dans toute chose qui existe, c'est l'amour du Père qui se manifeste. Mais on ne peut pas le voir, on peut seulement voir les conséquences, les effets. Voyez. Et c'est pareil dans la passion, dans la recréation du monde. Cet amour du Père se manifeste, mais nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons seulement voir les effets, voyez, à travers la naissance de l'Église, à travers les sacrements, à travers le salut du monde entier. Et tout ça, ça ne peut être accueilli que dans la foi. C'est pourquoi nous avons besoin de Marie pour accueillir l'amour du Père. Jésus, j'ai confiance en toi. Et Jean-Paul II a dit combien cette prière de foi et d'espérance, ça avait porté le peuple polonais tout entier dans les heures de nuit du nazisme et du communisme, jusqu'à finalement le conduire jusqu'à la résurrection de cette chute du communisme en 1989. Voilà, j'avance un petit peu peut-être. Mais Jean-Paul II, justement, il a dit ça sur le mystère du Père. Je veux lire quand même une citation de Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Esprit Saint à propos de ce mystère de la souffrance de Dieu. Il dit ceci: la douleur est concevable et inexprimable qu'à cause du péché, le livre saint de l'Écriture semble dans sa vision anthropomorphique entrevoir dans les profondeurs de Dieu et en un sens au cœur de l'inexprimable Trinité. Donc Jean-Paul II ose parler d'un mystère de souffrance au sein de la Trinité, ce qui semble en contradiction avec ce que disent par ailleurs les théologiens scolastiques de l'impassibilité de Dieu, déjà les pères de l'Église, un certain nombre de pères de l'Église. Alors voilà ce qu'il dit. La conception de Dieu comme être pré-parfait exclut évidemment en Dieu toute souffrance provenant des carences ou des blessures. Mais dans les profondeurs de Dieu, il y a l'amour de Père qui, face au péché de l'homme, réagit selon le langage de la Bible jusqu'à dire « Je me repens d'avoir fait l'homme ». Mais le plus souvent, le livre saint nous parle d'un Père qui éprouve de la compassion pour l'homme, comme s'il partageait sa souffrance. En définitive, cette insondable et indescriptible douleur du Père donnera surtout naissance à l'admirable économie de l'amour rédempteur en Jésus-Christ. Donc c'est cette douleur du Père qui l'a conduit à envoyer Jésus dans le monde et à donner l'Esprit Saint. Je termine avec ça. Au moment où nous le transperçons, Jésus laisse jaillir les fleuves d'eau vive de l'Esprit, qui est la miséricorde du Père et du Fils en personne, la personne amour, la personne don, qui va transformer nos vies, transpercer nos cœurs, briser nos cœurs, pour nous permettre de devenir à notre tour miséricordieux comme le Père, miséricordieux comme le Fils, devenir l'image de la miséricorde de Dieu en retrouvant la ressemblance que nous avions perdue par le péché. Cette dureté de cœur que nous avons reçue du péché originel, bien, elle veut être transformée par l'Esprit en un cœur de chair, un cœur doux, humble, un cœur qui est vulnérable, qui va même peut-être se laisser transpercer, mais qui va finalement être un cœur béatifié, béatifiant, parce que c'est un cœur qui sera aimé et pardonné et se donner jusqu'au bout, comme le cœur de Marie, comme le cœur de Jean au pied de la croix, comme le cœur de Marie-Madeleine. Il faut accepter pour nous de nous laisser recréer dans cette passion du Christ. Que Jésus nous donne un cœur nouveau, qui nous remodèle notre logiciel, si je peux dire, intérieur. Voyez. Pour être dans la résurrection, vraiment, totalement figuré à Jésus, il faut que nous acceptions dans la passion que Jésus nous reconfigure intérieurement. Alors c'est vraiment la grâce que nous pouvons demander à Marie, cette nouvelle naissance qui commence au pied de la croix et qui s'achèvera dans la vie de Pâques et dans la grande octave pascale jusqu'à la fête de la miséricorde. Demandons cette grâce que Dieu déverse dans nos cœurs les feux de son amour miséricordieux. Pour lui d'abord, pour Dieu, être miséricordieux envers le Père, miséricordieux envers Jésus, miséricordieux envers l'Esprit Saint lui-même, en acceptant de l'accueillir dans un cœur purifié. Et puis, pleinement miséricordieux envers le monde entier. D'offrir à Dieu, par le Christ, ce sacrifice qui sauve le monde entier, de nous unir à ce sacrifice avec l'Église tout entière pour le salut du monde, et de faire la joie de Dieu en faisant remonter vers lui l'action de grâce des hommes, la compassion des hommes, la reconnaissance des hommes. Demandons cela par Marie, notre Mère, qui nous représente tous, qui représente l'humanité tout entière, dont elle est la Mère de miséricorde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est bon. Tu vas recevoir. Voilà. Merci beaucoup, Père Martin. Si certains veulent rencontrer le Père Martin à travers tout ce qu'on sait, eh bien, il sera ici pendant 3/4 d'heure. Moi-même, je suis disponible. Bonne prière à tous en silence.